Alors, Red Plus, comme Elsa Triolet d'ailleurs, qui était le support de l'intervention précédente, le collège Elsa Triolet, j'aimerais juste avant réagir parce que ça me fait écho. Les trois vidéos qu'on vient de voir, sur la question de la place des préfets, sur la question du professeur qui se sent démuni face à une situation, la demande qu'on attend de lui, sur la question des rituels. En fait, les trois me font écho. La question du préfet, moi je suis dans l'établissement donc, depuis un an maintenant, il y avait quatre préfets qui également avaient énormément de mal à exister, à être reconnus pour deux raisons. Je vais faire très simple, je vais aller très vite. Une raison, je dirais, qui vient d'en bas ou qui vient des pairs, c'est-à-dire un manque de reconnaissance, un manque parfois ou un refus tout simplement de la notion même de préfet, des postures de rejet qui pouvaient être exprimées, qui avaient même été, avant que j'arrive, exprimées assez durement envers certains. Et puis, l'autre raison, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi que la commande de l'institution, je reprends là leur lettre de mission, qui était extrêmement vaste, qui abordait plein de sujets, qui en fait leur faisait reposer sur leurs épaules une multitude de missions différentes, et qui fait que, en étant préfet, ils répondent, je dirais, à la demande du principal, de l'ex-principal, mais en réalité, ils n'ont pas les moyens de s'investir et de coordonner tout ce qu'on leur demande de coordonner. Donc ils sont coincés entre ces double injonctions, celle, je dirais, de l'institution et celle de la salle des profs, et c'est dur d'exister. Je vois bien, sur les quatre préfets, je dirais, il y en avait deux qui ont investi un espace, qui ont été coordonnateurs de certaines actions, et puis deux autres qui n'avaient de préfet que le statut, finalement, que la lettre de mission, et qui avaient du mal. Après, c'est aussi une question de personnalité, c'est-à-dire que pour exister en tant que préfet ou coordonnateur, il faut aussi une certaine capacité à emmener les équipes et puis un intérêt pour le sujet sur lequel vous êtes mobilisé. Du coup, la disparition des préfets et leur remplacement par des coordonnateurs de niveau dans l'établissement, et l'idée ne vient pas de moi, puisqu'elle vient du collège Lamartine, de ma collègue Dominique Didier, qui est un des quatre et plus du Rhône. On en a profité pour multiplier les coordonnateurs. Plutôt que d'avoir quatre coordonnateurs niveau avec des missions presque trop larges, pour un professeur qui en plus de ça assure un service normal, on a multiplié les coordonnateurs, on l'a fait dans nos deux collèges, les propositions spontanées se sont multipliées également. J'ai un coordonnateur HDA, mise en place du HDA, j'ai un coordonnateur sur la mise en place du futur cycle 3, c'est un CM de 6e, j'ai un coordonnateur pour tout ce qui est PDMF et stage, on est sur des missions bien identifiées, portées par des collègues que ça intéresse, qui ont un vrai projet autour de cette mission, et donc l'idée de coordonnateur, du coup, elle devient légitime, elle existe, les collègues y répondent et on a quelqu'un qui organise, qui pilote, qui définit un calendrier, qui propose des objectifs et qui amène le reste des équipes à adhérer. On est plus sur cette relation, cette idée que le préfet est un petit peu, parce que c'est aussi ce qui avait été dénoncé, le relais, entre guillemets, de la hiérarchie, voire l'œil de Moscou dans le discours de certains. La question qui se posera, c'est au niveau de l'institution, puisque l'institution commande quatre coordonnateurs de niveau. Donc il va falloir articuler la demande de l'institution, quatre coordonnateurs de niveau, avec la réalité du terrain qui est la multiplication des coordonnateurs. Je verrai comment je m'y prends, mais ça, je dirais, c'est le boulot du chef d'établissement d'arriver à articuler les deux. Le deuxième point, c'est la question de la préfète, excusez-moi, je ne sais pas si c'est le bon terme, ou la préfète, qui exprime son malaise. je trouve ça intéressant parce que derrière ce qu'elle exprime, je vois deux choses. Je vois une tendance qu'on retrouve presque partout à vouloir externaliser un problème. On a un problème d'élève qui n'a pas son matériel et ce que je ressens derrière tout ça, c'est que l'équipe finalement lui refile le bébé. Et elle, elle se sent, parce qu'elle a besoin de légitimité, elle se sent obligée de s'en emparer et de trouver la solution. Et donc forcément, elle est démunie, forcément, elle rentre dans un échec, d'où sa colère, etc. C'est d'ailleurs un moment abordé, on lui dit, mais pourquoi les autres, ils ne l'ont pas fait avant toi? Ben oui, sinon, ils n'y sont pas arrivés. Mais voilà, cette tendance qu'on a souvent, quand on a un élève qui pose problème dans le groupe, dans la classe, à vouloir externaliser la solution par un dispositif ou un autre, c'est-à-dire à sortir le problème de la classe et à le refiler à quelqu'un d'autre. C'est souvent une tendance. Alors, on trouve des volontaires hein, parfois hein, pour essayer de résoudre le problème, mais est-ce qu'on le résout vraiment? Et on voit bien à travers cet exemple et ce malaise qu'elle exprime que finalement la solution externe n'est pas toujours et pas souvent la bonne. Parce que l'élève, de toute façon, il va revenir en classe. Et puis le troisième point, c'est la question des rituels. Le dernier débat qui a lieu entre les profs, là, où on voit bien la difficulté, on est tous d'accord sur le plan théorique pour dire qu'il faut mettre en place des rituels, parce que ça donne un cadre, ça sécurise, ça donne une lisibilité, c'est bien pour tout le monde. Et en même temps, la tentation individuelle de fermer sa porte, justement, comme le dit un collègue, pour au moins lui être tranquille. De se désolidariser, pas volontairement, mais de fait, parce que lorsque on croit que soi-même on y arrive mieux, avec sa façon, on laisse les autres tout seuls, et donc forcément, à un moment, le rituel disparaît, et comme tu le disais, les élèves prennent le pouvoir, parce que s'il n'y a plus de règles, s'il n'y a plus de rituels, il y a des failles, il y a des espaces dans lesquels les élèves vont s'insérer. Voilà, c'est ces trois éléments qui me faisaient réagir, qui me faisaient vraiment écho sur ce qu'on peut vivre hein, dans beaucoup d'établissements. Pour élargir un peu par rapport à la place du pilote, non mais...
Alors, juste sur les préfets, je vous ai montré au tableau un travail qu'on avait fait il y a quelques temps avec Anne-Marie Benayoun du Centre Alain Savary qui n'est pas là aujourd'hui. Sur la question de l'organisation du travail des préfets, comprendre le travail des préfets, et quand j'entendais le résultat du travail de Sylvie, on voit bien toutes ces marges. Hier, on parlait des métiers à inventer, hein, les métiers nouveaux, les métiers qui n'ont pas d'histoire, et donc il faut comprendre, dans un prescrit polymorphe, voire contradictoire, comme ça a été dit, il faut comprendre l'étendue de tout ce qu'on voudrait faire et qu'on n'arrive pas à faire, et c'était magnifique dans les images que nous a proposées Sylvie. Et c'est vrai que, voilà, cette question de trouver la cartographie de toutes les choses qu'il y a à faire et comprendre que les équilibres des uns ne sont pas les équilibres des autres et pouvoir en discuter, comme a dit Sylvie, la main tendue, c'est effectivement ça qui fait ressource pour qu'on comprenne que c'est pas juste préfet égale collabo, mais comment est-ce qu'on arrive à organiser un certain nombre de choses différentes dans l'établissement avec des métiers qui mutent. Moi j'insiste sur cette idée que les métiers d'enseignement sont des métiers qui mutent aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'autres tâches qui sont à prendre en charge. Et du coup, si on veut rompre, mais Marc va nous en parler, si on veut rompre avec cette idée de « il y a nous, les profs, et eux, l'administration hein, », et à chaque fois qu'on a un problème, on va chercher à l'externaliser. Et du coup, ben voilà, comment on ne peut pas s'en sortir parce qu'on peut inventer 45 métiers de spécialistes de la prise en charge de ça. Et on sait très bien que ça, on va juste dans le mur avec ces choses-là. Et que la difficulté, c'est bien l'inverse. Alors, concrètement, dans votre établissement, la mise en place de ces nouveaux dispositifs, de ces nouveaux espaces, de ces nouveaux horaires, de ces nouveaux cadres, quelles questions, quelles ressources, quelles avancées, quelles difficultés?
Alors, ça renvoie en fait à la place du pilote, hein, tout simplement. Alors, je ne vais peut-être pas, je ne sais pas si vous en avez parlé hier, de l'articulation premier-second degré, les difficultés que ça pose. C'est peut-être pas le sujet aujourd'hui.
Non, mais c'est forcément le sujet d'aujourd'hui.
Bon, d'accord. Alors, donc, j'en parle. Donc là, je vais essayer d'être bref, mais enfin, on va être obligé de passer par, une dimension technique. On a du côté du premier degré 18 demi-journées, 9 journées, qui correspondent à 10% de l'année scolaire, libérées et remplacées pour les enseignants. Donc ça veut dire, le et remplacé est important parce que ça veut dire que vous avez sur les 4 et plus du Rhône l'équivalent de 19 temps plein qui sont spécifiquement dédiés à ça, qui sont des remplaçants REP plus, spécifiquement dédiés au remplacement. Donc il faut qu'ils soient occupés à l'année. Parce qu'ils sont payés à l'année. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont à la demande. Il faut donc qu'ils aient un service du 1er septembre au 4 ou 5 juillet, je ne sais plus quand on s'arrête cette année. Donc, à la fois sur les 4 réseaux concernés, avec des moments de regroupement où ils vont être concentrés sur un réseau de manière à permettre à ce réseau d'avoir 19 PE libérés en même temps, etc., etc. Donc toute une organisation, toute, je dirais, une organisation lourde et pesante pour le premier degré, qui est liée au fait qu'on a un remplacement uniquement en hors poste, pour prendre un langage second degré, mais avec une organisation derrière très très lourde. Ça conditionne plein de choses, ça veut dire que au niveau d'une école, ils savent que telle semaine, ils vont avoir 4 remplaçants, mais ça veut dire 4 remplaçants par demi-journée, donc pour chaque demi-journée, il faut que les 4 profs libérés aient du contenu à faire, etc. Ça, c'est l'organisation premier degré. L'organisation second degré, vous la connaissez, c'est 1h30 en moyenne, enfin, c'est une pondération de 1.1, exactement. C'est-à-dire l'heure devant élève est pondérée à 1.1. Ce qui fait qu'avec 16h30 devant élève, pondéré, vous arrivez à 18, enfin vous êtes dans votre service de 18 heures. Concrètement, ça se traduit par 1h30 par semaine pour les enseignants du second degré disponibles pour un temps de concertation, formation, etc. Donc c'est comme ça qu'on la traduit dans nos emplois du temps. L'heure et demie, elle apparaît dans les emplois du temps. La circulaire dit qu'elle n'est pas, elle n'a pas vocation à être comptabilisée, donc on ne demande pas au prof d'être au garde à vous présent de 13h à 14h30 en ce qui me concerne le mardi. Mais on offre un espace. Alors cet espace existait dans certains établissements auparavant, ça s'appelait l'heure blanche, bleue, verte, enfin bon, toutes les couleurs y passaient. Chez nous, elle n'existait pas. Le besoin existait, mais l'heure n'existait pas dans notre emploi du temps. Donc arriver à faire coordonner l'heure et demie hebdomadaire avec ce que j'expliquais avant, ces demi-journées remplacées dans le premier degré, c'est compliqué. Le choix qu'on a fait sur l'établissement et sur d'autres, hein, c'est que quand on veut faire un travail commun, premier et second degré, sur une formation, sur un temps d'échange, premier degré, ils arrivent parce qu'ils sont remplacés, second degré, sur des formations identifiées, ciblées, et ben, les profs sont en stage. En gros, je libère. Pas le choix. Je peux pas. Techniquement, il n'est pas possible de transformer 1h30 en demi-journée d'une façon ou d'une autre. Donc, je considère que c'est un stage et je libère les professeurs concernés. C'est ce qu'on a fait fin septembre. Il y avait une semaine groupée avec une formation sur les petits lecteurs dont Noélie a peut-être parlé hier, je ne sais pas. Les profs de lettres étaient obligés, si on peut dire, de s'y inscrire. Pendant les 4 demi-journées concernées, ils ont été en stage, tout simplement. C'est le seul moyen qu'on a trouvé concrètement pour arriver à articuler des temps communs, premier, second degré. Alors après, là je parle de temps où on est sur une formation, donc ça veut dire on est sur de l'organisation. Après, sur le ponctuel, c'est-à-dire sur la mise en place de binômes premier, second degré, prof de collège, là on est sur du gré à gré. C'est-à-dire qu'on a mis en place sur le réseau une double organisation. La première, c'est que le volume d'heures surnuméraires, parce que nous, on a la chance d'avoir des surnuméraires, qu'on a triolés. Ce volume d'heures, qui autrefois était, c'était des postes à profil, il y avait un professeur qui avait une décharge de 9 heures surnuméraires, qu'il effectuait selon les réseaux, soit en école, soit dans le collège, enfin bon, c'était des heures en plus. Je ne sais pas si ça perdurera, mais bon, pour l'instant, on les a toujours. Ce volume d'heures, on a choisi de le répartir sur l'ensemble des profs de 6e en lettres et en maths. Donc, tout prof qui fait du français ou des maths en 6e va se voir dans son service attribuer 2 à 3 heures de surnuméraire qu'il devra faire en école. Donc, en gros, l'idée étant d'obliger les collègues de maths français à créer du lien avec les écoles du réseau. La contrepartie, c'est comment faire venir les PE au collège. Donc là, on est, ce que je disais, sur le gré à gré, c'est-à-dire que les PE ont l'emploi du temps des professeurs et ils vont devoir trouver des temps où le professeur avec lequel ils souhaitent travailler est libre pour une heure d'échange, suivi d'un cours en sixième, par exemple. Mais ça, on est sur, on ne peut pas l'organiser à l'échelle du réseau, ni même à l'échelle du collège. Ça ne peut se faire que de gré à gré.
Est-ce que dans la discussion que vous avez avec l'IEN, du coup, cette perspective-là, elle fait que l'IEN va le retenir dans le temps de service, dans le temps de concertation, dans le 24+3 des enseignants du premier degré?
Tout à fait. Ce n'est même pas au niveau de l'IEN, c'est au niveau du directeur d'école que ça va se jouer, puisque c'est école par école que ça va se faire.
Mais c'est l'IEN qui va le faire rentrer dans sa contact.
Alors, pour préciser, on a, au niveau du pilotage, on a un binôme IEN principal qui fonctionne très bien. Je sais que ce n'est pas le cas dans tous les réseaux. Chez nous, c'est le cas.
Presque tous les réseaux, c'est comme ça. Hein.
Donc, deuxième point toujours technique, mais je vais quand même l'évoquer parce que c'est important pour l'avenir. Et puis, je dirais, pour le pilote, c'est souvent un problème qui est extrêmement chronophage. C'est le hiatus qu'il peut y avoir parfois entre la commande de l'institution et puis la réalité du terrain, ce que les équipes souhaitent faire ou pas, et la difficulté à articuler les deux. Je prends l'exemple du 1.1, la mise en place de ce fameux 1.1, l'heure et demie. Quel sens on lui donne ? Est-ce une décharge ? C'est ce que une partie des équipes souhaiterait. Est-ce une décharge, c'est-à-dire une réduction du temps de bon élève compensé par un temps institutionnel de concertation? Ou est-ce une pondération au sens d'une rétribution d'un travail supplémentaire? En termes d'organisation, ce n'est pas du tout la même chose. Actuellement, comme on est sur une préfiguration et que ça s'est fait dans le courant de l'hiver de manière assez rapide, actuellement on est entre les deux. C'est-à-dire que le financement de ce 1.1, il est moitié en HSA, moitié en heure poste. C'est-à-dire moitié en heure poste, c'est-à-dire moitié en décharge, moitié en HSA, moitié en rétribution supplémentaire. Et avec cette difficulté à donner du sens, et puis à clarifier le sens qu'on donne aux équipes.
Donc, vous pouvez préciser en quoi le fait que le rectorat paye ses heures en heure sup, ça a un impact sur le travail collectif, parce que c'est un point qui a l'air extrêmement technique, mais qui est très important. En quoi le fait que le rectorat décide, je ne vais pas dire choisisse, de payer ça en heure sup, ça a un impact sur la manière dont c'est vécu et la manière dont vous allez ensuite pouvoir ou pas organiser le travail collectif? Parce que c'est une discussion qu'on a eue dans le cadre du travail, y compris avec la DGESCO, sur quelles sont les consignes qui sont données au rectorat, sur comment vous organisez le service des enseignants en REP+, qu'est-ce que vous payez en heure poste et qu'est-ce que vous payez en heure sup. Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi ça pose problème?
C'est bien pour ça que je précise le sens. Décharge ou pondération, ça veut dire concrètement, pour les enseignants, et je disais que dans notre établissement, il n'y avait pas d'heure blanche. Donc c'est une nouveauté, cette heure et demie qui apparaît dans l'emploi du temps, qui n'existait. Dans les établissements où ça existait, cette idée était installée, c'est peut-être plus facile, mais dans l'établissement où ça apparaît en même temps que le 1.1, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que pour les enseignants qui n'ont pas une décharge très forte de leur temps devant l'élève, ils le voient et ils le perçoivent comme un temps de travail supplémentaire. Alors ça ne veut pas dire qu'ils le refusent, hein, puisque ce temps de concertation était réclamé par ailleurs. Mais c'est quand même perçu comme un temps de travail supplémentaire et parfois c'est rappelé. Donc ça crée, alors il ne faut pas s'enfermer, il faut en être conscient, il ne faut pas s'enfermer là-dedans parce que il ne faut pas non plus stériliser le travail qu'on va avoir à faire. Mais c'est quand même un petit caillou dans la chaussure. Et là, je dirais, le pilote, quand je disais qu'il est coincé entre les équipes et l'institution, là, on est vraiment au cœur de ce sujet. C'est-à-dire que tant que l'institution n'aura pas clairement dit le sens qu'elle donne à cette pondération et la manière dont elle la met en œuvre, une fois que la règle sera claire et fixée, ça sera plus simple. Pour l'instant, on est encore sur une ambiguïté qui fait que, bon, on préfigure, on le savait en préfigurant qu'on était sur une construction. Mais ceci dit, c'est pas ça qui a empêché, parce que c'est quand même essentiel, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui a empêché le fait que les équipes s'emparent de ce temps et s'en emparent réellement sur un travail concret.
Dernière question peut-être avant qu'on donne un bref tour de parole à la salle. Sur ces contenus de travail dans ces temps, qu'est-ce qui vous semble être comment nourrir, comment apporter, qu'est-ce que vous pensez nécessaire, utile, qu'est-ce qui vous pose problème sur le fond, quoi.
Alors, j'allais y venir, non, avant même la question.
On en avait parlé.
je dirais qu'il y a deux fils rouges sur le contenu. Il y a la pédagogie, parce que c'est quand même l'esprit même de la refonte de l'éducation prioritaire, c'est la plus-value pédagogique, les pratiques pédagogiques, l'interrogation sur la manière de mieux faire réussir les élèves. Je dirais que cette refonte arrivait au bon moment, et dans notre établissement à double titre, l'enquête PISA de l'an dernier, qui au moment des assises nous est tombée dessus collectivement, qui a quand même profondément interrogé les équipes. Moi, c'est-à-dire, c'est la quatrième enquête PISA que je vois sortir, je crois. Troisième ou quatrième. Je me souviens des réactions lors de la première enquête PISA, qui était vraiment une réaction de rejet, voire de... Bon, en gros, on fait lire une notice IKEA aux élèves. Je me souviens comme un commentaire de collègue. On fait lire une notice IKEA aux élèves et puis on teste leur niveau avec ça. Bon, aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui... résultats de l'enquête PISA ont réellement, je trouve en tout cas, provoqué une vraie prise de conscience, une vraie interrogation collective. Et puis le deuxième point, alors là c'est local, c'est que ben, on a eu des résultats au brevet qui n'étaient pas très bons sur le collège, en grande partie à cause de notre CCF, c'est-à-dire notre manière d'évaluer. Donc c'est une prise de conscience à la fois collective et locale, qui permettent d'amener une vraie interrogation pédagogique. L'autre plan qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect professionnel. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, ce temps de concertation-formation, il doit être l'occasion de professionnaliser la réflexion. J'ai coutume de dire que l'enseignant se sent souvent, à l'inverse de l'homme politique, il se sent souvent coupable, culpabilise beaucoup, mais pas responsable. Or, moi, je voudrais pouvoir inverser, c'est-à-dire responsabiliser le questionnement et déculpabiliser en même temps. C'est-à-dire qu'on rentrerait dans un questionnement responsable, professionnel, sur les gestes, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans la vidéo, et on sortirait de ce questionnement, de cette remise en question personnelle, je suis pas bon, j'y arrive pas, etc., etc. Donc voilà, pour moi, les deux fils rouges qui doivent guider le contenu, c'est ça. Actuellement, on est sur un mois et demi de travail, je dirais, les deux se dessinent. J'ai laissé, à part certains moments où on a imposé le contenu, mais globalement, on est sur du deux tiers, un tiers. Deux tiers laissés aux équipes sur des besoins, identifiés par l'équipe. Et puis un tiers qui vient de la direction. Je signale quand même, parce que on est vraiment au cœur du sujet. Je parlais tout à l'heure des coordonnateurs avec des missions spécialisées. Il s'est monté cette année au sein du collège un groupe qui s'appelle groupe d'accueil. Donc en gros, ce sont quatre professeurs qui ont souhaité accueillir leurs nouveaux collègues, puisqu'on a quand même un turnover assez important dans ce type d'établissement, et chaque année on a des collègues qui arrivent là un peu contraints, un peu à reculons, avec sur le jeu des mutations, etc., et qui vivent mal pour certains, et très mal même parfois, leur arrivée dans ce type d'établissement. Donc l'idée était de les accueillir, de les aider, de les rassurer, de les tutorer. Donc quatre collègues ont choisi de créer ce groupe d'accueil et se mettent donc à travailler sur cet accueil. Donc là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. D'emblée, quand ils m'en ont parlé, je me suis mis en retrait. Je connais Néopass. Je les ai invités à utiliser Néopass, c'est-à-dire dans l'usage de la vidéo, le regard entre pairs, l'auto-analyse, Il est, pour moi, il est évident que le regard du chef d'établissement ne doit pas s'immiscer là-dedans. Parce que ça fausse tout. J'y vois aucune rébellion cachée hein, dans leur démarche, personnellement. Ça fausse tout. Parce qu'on est malgré tout toujours dans une relation ambiguë avec la hiérarchie, avec le regard du chef, etc. Ça ne veut pas dire que je m'en désintéresse, voire que je me mets totalement en retrait. Mais je conçois mon rôle non pas comme celui qui va, de manière injonctive, dire ce qu'on doit faire et pas faire. Je peux être même parfois un peu sanguin dans mes réactions. Je crois que mon rôle, il est de rappeler, de poser les problèmes, de poser les questions, voire de les reformuler sur l'évaluation, par exemple, de manière insistante, s'il le faut. Mais au moment où les équipes s'emparent de la question et choisissent de travailler dessus, là, je me retire. C'est-à-dire que... le cadre que vous réclamiez tout à l'heure, c'est ce besoin qu'ont les équipes, et je le crois vraiment, d'avoir une visibilité de ce qu'attend la direction dans laquelle on va, c'est à moi de le faire. Mais après, sur la mise en œuvre, je n'ai pas la solution à tout. Je ne suis pas et je ne dois pas être la solution à tout. Donc c'est cet équilibre entre, je dirais, le moment où il faut dire aux gens, là il y a un problème. Ah, et des fois c'est trop tôt, il y a des fois c'est mûr. Et si c'est trop tôt, ben, il faudra le redire plus tard, d'une autre façon, ou le rappeler. Et puis quand c'est mûr, les équipes s'en emparent spontanément. Il y aura dans une équipe de profs toujours un ou deux qui vont se dire, oui, là, on va essayer d'inventer quelque chose comme vous l'avez fait de l'autre côté.
Et du coup, la question que, par rapport au témoignage des deux collègues, hein, puisque la question sur laquelle on voudrait shooter, c'est... voilà, qu'est-ce qui vous aide, vous, en tant que chef d'établissement, dans cet ordinaire du travail, une fois que vous avez posé le cadre, indiqué la direction? Et donc, si vous dites, moi, je dois me retirer à ce moment-là, à votre demande, votre besoin, en termes de pilote, il est d'avoir quoi, à ce moment-là, qui puisse venir soutenir l'activité des profs? Mais si tant est que vous soyez d'accord avec ce qu'a dit Caroline, à un moment donné, c'est que l'auto-analyse, on met un groupe de profs avec un outil même magnifique comme Neopass, ça ne suffit pas. Alors, votre besoin, il est d'avoir quoi à ce moment-là?
Alors, le besoin, il est d'avoir des ressources externes ou internes mais, à former. C'est-à-dire que, des compétences, des expertises qui viendraient appuyer les équipes. Alors, ça peut être l'IPR sur certains sujets. Bien, si on prend la question de l'évaluation, ça peut être l'IPR, l'expertise. Si on prend des passes, on peut demander au centre à la Savary, par exemple, de nous envoyer un expert. Mais bon... on a un besoin d'experts externes, mais je dirais, là aussi, attention au piège de croire que cette intervention extérieure va tout résoudre. Je crois fondamentalement que le changement de culture, il faut l'accompagner, il faut parfois le pousser un peu, il faut convaincre, il faut amener, mais le changement de culture, il viendra que des équipes. Donc les regards extérieurs, l'expertise, elle viendra peut-être aider, accélérer, diriger, mais elle ne remplacera pas le travail dans les équipes. C'est ce que je pense.